Bonjour, eh bien comme chaque mois nous allons vous parler théâtre. Le théâtre qui est l'art de l'avenir, faut pas oublier maintenant avec l'IA, hein, vous le savez, le cinéma, la synchro, tout ça va disparaître, la télévision, voilà, mais le théâtre, on aura toujours besoin du vivant, on a toujours besoin d'un être vivant en face de soi, c'est pour ça que c'est vraiment l'art de l'avenir. Alors évidemment, l'art de l'avenir, sur le plan artistique, c'est formidable. En revanche, sur le plan financier, c'est beaucoup plus difficile. Donc voilà, c'est l'équilibre à trouver aujourd'hui. Mais enfin, vive le théâtre, allez au théâtre, et cette émission est faite pour ça. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir quatre invités, voilà, pour une pièce que j'ai vue il y a quelques mois, peut-être un ou deux ans, oui.
Je crois. 2023-2024.
C'était dans un des plus beaux théâtres de Paris, qui était le Ranelagh. Ouais, c'était donc l'antichambre de Jean-Claude Briseville. J'avais trouvé que le spectacle était excellent. Je l'ai même écrit dans Valeurs Actuelles, je crois bien. Et puis donc le spectacle est repris dans un nouveau lieu, enfin un nouveau lieu, pas vraiment nouveau lieu, puisque ça fait quand même 3-4 ans qu'il est ouvert, qui sont les Gémeaux Parisiens dans le 20e arrondissement. Et voilà, donc c'est l'occasion d'en reparler. Vous savez qu'en général, je ne me rends pas des comédiens parce que toujours ma réputation de méchant critique fait que, bien sûr, c'est très difficile d'avoir des comédiens en face et de leur dire que le spectacle est très mauvais. Tandis que là, au moins, je l'ai vu depuis longtemps, le spectacle est très bon, donc on va pouvoir être dans une atmosphère sympathique, généreuse, ouverte, avec que des compliments, voilà, et presque même du copinage, hein, puisque j'ai quand même quelques amis qui sont là dans le spectacle. Voilà. Donc, présentez-vous. On va commencer par les dames.
Oui, bien sûr.
Permet. Alors, bien voilà, sûr. Vous êtes...
Madame Dudéfant dans
Madame
la pièce.
Dudéfant. Votre...
Marie Dudéfant.
Voilà, et votre nom de comédienne.
Ah, Céline Yvon.
Voilà, Céline Yvon. Ensuite...
Je suis Marguerite Mousset, je joue Julie de Lespinasse.
Julie de Lespinasse. Et puis alors, le metteur en scène qui est là...
Voilà, je m'appelle Tristan Ledose et c'est moi qui ai commis cette mise en scène.
Voilà, commis, là, en l'occurrence, ce n'est peut-être pas vraiment le mot, mais...
Merci.
Plutôt bravo.
Un grand merci.
Et puis alors, mon vieux copain qui est là.
Alors, Rémi Jouvin.
Voilà.
Et je représente le président Hainaut.
Ah, très bien.
Et j'ai beaucoup de plaisir à être présent et à être avec vous.
C'est très gentil.
Je suis très touché.
Bon.
Nous tous.
Va peut-être commencer par parler de l'auteur, Jean-Claude Briseville. Un grand auteur qui a été... révélé tardivement.
Il a eu
un parcours assez particulier.
Très particulier. Je pense toujours à sa pièce que j'avais interprétée qui s'appelle Le fauteuil à bascule,
oui,
et qui donnait suite à son licenciement.
Exactement.
Donc, il avait travaillé chez Julliard, je crois.
Oui, il a été directeur du Livre de Poche, il
exactement.
Semble. Hein,
si
tout à fait, oui. Directeur du Livre de Poche. Il a été aussi le dernier secrétaire de Camus.
Oui, c'est ça. Voilà.
Ce qui est... Enfin, peu de gens le savent. À ce titre, il a été très proche de René Char ensuite, et il est resté fidèle aux existentialistes. Et il a connu le succès assez tardivement avec Le Souper, qui est sa pièce la plus connue, qui a été adaptée au cinéma.
Oui, mais avant, il y avait Le fauteuil à bascule.
Le fauteuil à bascule.
C'est surtout ça qu'il l'a lancé.
C'est vrai que c'est ce qu'il a lancé, et c'est ce qui l'a poussé à adopter ce principe du dialogue au théâtre, qui est... quelque chose qui revient dans ses pièces les plus connues.
La confrontation.
La confrontation. Donc, dans la pièce qui nous intéresse là aujourd'hui, l'antichambre, c'est la confrontation entre les anciens et les modernes. Mais on pourrait parler de sa pièce sur Descartes et
Pascal.
Et Pascal, où là, ça serait l'homme de foi, l'homme de raison.
Celui dont Napoléon et John Noir, Lilo, voilà,
le méchant anglais, l'arriviste et l'homme au destin tragique.
Mais ce que j'adore chez lui, c'est son intelligence.
Il faut que tu parles là.
Ce que j'adore chez lui, c'est son intelligence, sa manière de ciseler les mots. C'est un vrai bonheur à interpréter. Oui. Pour un comédien,
non,
c'est...
parce que moi, ça m'intéresse, mais ça intéresse encore plus les auditeurs. Donc, c'est mieux de parler directement.
Oui, c'est ça. C'est ça. Mais ce que je voulais souligner, c'est que pour le comédien, c'est un vrai cadeau que Briseville nous donne. Mmh. Parce que c'est des phrases...
C'est un peu ce que disent en général tous les comédiens quand ils jouent des auteurs, non?
Oui, mais enfin...
non,
oui,
c'est une jolie langue, Briseville.
D'ailleurs, c'est notre travail.
Bah, oui,
notre travail, c'est de défendre les auteurs.
D'incarner.
Enfin, oui, des incarner.
D'incarner des personnages, oui. Ça, c'est notre travail.
Oui, mais...
pas seulement de défendre des auteurs.
Moi, je...
En tout cas, bon, donc, vous avez bien compris, chers auditeurs, que c'est un auteur qui fait plaisir aux comédiens. Et Rémi Jouvin vient de nous l'expliquer très clairement. Mais laissons parler un petit peu nos partenaires féminines, parce que c'est quand même le plus important, non, dans le spectacle.
Oui, c'est le plus important.
Alors, faites un petit... Un tout petit résumé de la pièce, parce que lui, il prend la parole, mais bon, il est quand même une pièce rapportée dans le spectacle.
C'est vrai.
Alors, Madame du Deffand.
Madame du Deffand, je l'aime beaucoup. Je ne suis pas sûre qu'elle plaise à tout le monde. Mais c'est
très important d'aimer les personnages que l'on joue.
Ah non, mais c'est une femme exceptionnelle. Même si, là, maintenant que je la connais un petit peu, après avoir un peu lu sa vie, lu ses lettres, c'est quelqu'un d'incroyable.
Alors racontez un peu, c'est une confrontation entre Madame du Deffand.
Alors c'est Madame du Deffand dans la pièce à 50 ans, elle perd la vue, c'est une grande lectrice, une grande épistolière, et donc elle a besoin de quelqu'un pour l'aider à lire et à écrire ses lettres.
Ça se situe à quelle époque exactement?
1700, la pièce elle est 1750, Tristan?
Oui, c'est ça. Madame du Deffand a vécu très, très âgée, elle est morte en 1780, à l'âge de 76 ans, elle devait... Enfin, en tout cas, quand la rencontre se fait avec Julie de l'Espinasse, je crois que du Deffand a 56 ans, donc on doit être dans les années 1760-65. Voilà. Oui. Briseville, c'est une pièce historique, mais c'est pas une pièce strictorique au sens exact. C'est-à-dire...
En fait, ce qui est intéressant dans la pièce, c'est donc Madame du Deffand est une aristocrate. Une aristocrate. On est donc au 1760, un truc comme ça, on est un peu avant la Révolution, c'est l'apogée des salons littéraires, et Madame du Deffand a un salon qui est extrêmement prisé, elle est appréciée, enfin, tout le monde court dans son salon, et donc comme elle perd la vue, il lui faut une lectrice, et il se trouve que son frère, qui a l'air d'être un personnage assez odieux, a une fille bâtarde. Et cette jeune fille bâtarde, donc dont le père ne veut pas s'occuper, veut la mettre au couvent. Et il se trouve que Madame du Deffand passe un séjour à la campagne dans la famille de son frère. Elle rencontre la bâtarde de son frère.
Julie de l'Espinasse.
Voilà, ouais. Julie de l'Espinasse, qu'elle trouve absolument délicieuse, charmante, vive, intelligente. Et il naît une vraie amitié entre elles deux. Donc elle a son petit plan, mais ça n'a pas été simple, parce que la famille... De Gaspard.
N'en dites pas trop. Hein.
D'accord.
Non, c'est bref. Important parce que sinon, il faut garder le suspense.
Bref, ça n'a pas été simple. Ça a vraiment été une volonté de Madame du Deffand d'avoir. Elle a tout fait pour avoir Julie l'Espinasse auprès d'elle. Une jeune bâtarde charmante. Et puis, elle passe un contrat toutes les deux. Parce que c'est quand même. Vous venez chez moi. Chez moi, c'est les salons, les philosophes. Vous allez rencontrer tout Paris. Elle n'a jamais vécu que dans la campagne et dans un couvent où il ne se passait rien. Donc elles ont un contrat toutes les deux, et il est bien très clair pour Madame du Deffand qu'au-delà de leur amitié, de leur estime, de leur amour, chacune va garder sa place. Il n'est pas concevable que ce soit autrement. Mais il se trouve que Julie va plaire aux très bons amis de Madame du Deffand. Et là, c'est très douloureux pour Madame du Deffand.
Alors, vous dites,
c'est un casus belli.
Voilà.
Alors est-ce que ce résumé vous convient?
Oui, tout à fait. Sinon, il y a quelque chose sur le temps de la pièce qui n'est pas donné véritablement par Briseville. En fait, il a condensé 10 ans d'amitié. Et nous, on l'a d'autant plus condensé qu'on a coupé certains passages pour satisfaire aux besoins des théâtres qui nous accueillaient.
Aha.
Donc, 10 ans d'amitié condensés en 1h20 de spectacle. Donc on a la chance de voir cette amitié en plusieurs tableaux. Et donc, sur la donc 1760, oui, un petit peu avant et un petit peu après. Mais c'est, oui, c'est 10 ans d'amitié avec haute en couleur, peut-être.
Oui, c'est l'intérêt de la pièce, au-delà que ce soit un drame historique qui a existé, c'est qu'il y a une vraie dramaturgie. Il se passe des choses. Enfin, il y a plusieurs états dans la pièce. Et je pense que pour le spectateur, c'est ce qui fait qu'elle est très plaisante. On ne voit pas comment ça va partir en cacahuète. Et au début, on ne sait pas que ça va partir en cacahuète.
Alors Céline, je vais apporter une petite précision pour nos auteurs. Il y a en effet, Dudéfant établit un contrat dans cette collaboration à venir. Et il y a une clause à laquelle elle tient beaucoup, c'est que Julie de Lespinasse ne révèle jamais son identité, ouais. À savoir qu'elle est l'enfant illégitime de son frère, donc sa nièce. Et elle lui demande d'une certaine manière de ne pas exister, de rester dans son ombre. Et ça va être le premier fruit de discorde entre elles. On a parlé tout à l'heure d'opposition entre les anciens et les modernes. Il va y avoir un conflit entre Dudéfant et Lespinasse, mais qui se joue à plusieurs niveaux. Il y a un conflit générationnel, puisque Madame Dudéfant a beau être l'esprit le plus aiguisé de France à ce moment-là, elle est entourée d'hommes et elle se fait vieillissante et Julie Lespinasse a une intelligence tout aussi vive
et ravissante,
mais et jeune.
Elle est aussi ravissante et jolie. Et hélas, l'intérêt des hommes.
Alors, Julie Lespinasse n'était pas jolie. Hein.
Non, mais elle était charmante dans ce que j'ai
lu. Oui, mais elle avait du charme. Je pense que c'était quelqu'un de...
Donc c'est une erreur de distribution, c'est ça.
Oui, alors Marguerite Mousset l'est.
Je l'est prête au personnage tout ce que je peux. Mais elle s'en plaint dans ses lettres. Dans ses lettres à ses amants, elle dit si j'étais jolie, mais je sais que je ne le suis pas, et vous me faites la bonté d'avoir des égards pour moi, des choses de cet ordre-là. Et quand on voit les tableaux, on peut se dire que même à l'époque, elle n'incarnait pas la.
Ça peut être tout à fait un procédé aussi.
Oui.
Et elle n'était pas réputée pour ça,
en quelque
sorte.
Mais
elle avait un charme incontestable. C'était quelqu'un de généreux. Et je crois qu'elle était, elle aimait les autres, elle se tournait vers les autres qui devaient faire son bonheur ou son malheur. Mais je pense qu'elle voyait pas la vie comme une recluse, où elle a tenu salon pendant 10 ans également, à partir de 64. Et elle voulait que les gens s'éduquent, s'élèvent et que l'esprit circule. Donc je pense que ça, sa générosité, sa charité, ses dons de bienfaisance devaient transparaître. On devait lire son âme sur son visage. Ça, c'était.
Ça ne l'a pas empêché de mettre Madame Dudéfant plus bas que terre.
Alors, Briseville, je pense que voilà, la brouille a été, célèbre. Mais Briseville, alors, parce que moi, je suis le personnage Julie de Lespinasse. Alors, c'est marrant, enfin, et l'élément perturbateur. Donc, en tant que comédienne, c'est génial parce que je trouve que j'ai un arche. À chaque scène, j'ai quelque chose d'autre à jouer et je dois évoluer. Ça, c'est super. C'est une superbe expérience. Et je pense que quand on essaye d'interpréter le personnage et de se renseigner sur lui, il a pris... en tout cas, nous, on a dû muscler un petit peu les rapports pour créer du conflit. Et parfois, je me dis que je suis sur scène... un peu plus cruel que n'a dû l'être véritablement Julie, sauf notre scène véritable, la scène de brouille où tu me tues.
D'Alembert qui était quand même l'ami le plus proche, celui en quel elle avait le plus confiance, d'Alembert va...
Tu parles de Dudéfant, l'amitié...
L'amitié de Dudéfant et d'Alembert, mais d'Alembert il va abandonner Madame Dudéfant et pour aller avec Julie Lespinasse.
Et oui.
Mais c'est invraisemblable.
La jeunesse, n'est-ce pas?
Mais Julie de Lespinasse, était-elle chanteuse?
Non, mais elle aimait l'opéra.
Ah. Parce que nous avons une Julie qui chante.
Ah, et oui, voilà. Mais je lui prête cela aussi.
Je me disais, pourquoi cette intervention? Eh bien, nous avons en direct la réponse.
Ça, pour que l'auditeur l'entende.
Voilà, bien sûr.
Enfin, bah, c'est ce qui...
Fais pas ça, parce qu'ensuite, je lui demandais de chanter. Tu sais, c'est comme ça que ça se passe.
D'accord.
Donc, c'est un risque.
Non, non, c'est pas un risque, parce qu'elle a une voix magnifique.
Ah bon, très bien. Chanter en récapella.
Je note quand même que tu fais, quoi, tu fais comme... Comme beaucoup d'hommes, tu me fais encourir des risques sans me poser la question au préalable. Voilà. Donc voilà, je note.
Nous retiendrons, c'est comme beaucoup d'hommes, n'est-ce pas?
Ça, oui, exact.
En tout cas, vous défendez le personnage d'une manière assez extraordinaire. Alors,
merci.
Voilà. En fait, vous la jouez méchante et elle est gentille.
Alors, on a, comme c'est une reprise, je trouve que, de manière très personnelle, On a évolué, nous aussi. La pièce a pris... Voilà, exactement.
C'est un peu le principe du théâtre.
mais je trouve qu'elle a pris en couleur, en chair. Mmh. Et je me sens... j'abandonne un petit peu, j'aime mon personnage, mais pour les biens de la pièce et de la dramaturgie, j'accentue le côté conflictuel. Voilà. Et parfois, j'ai l'impression je trouve qu'on la joue de manière plus musclée que ce qu'avait écrit Briseville, qui était très dialogué.
Mm-hmm. Oui.
Révolutionnaire un peu, non?
Non, puis...
Plus révolutionnaire, oui, mais alors là aussi, je m'accroche au fait que Julie Despina, c'était quelqu'un d'exalté. Mm-hmm. Et je me raccroche à ça.
Mais Tristan, il t'a dirigé aussi dans ce sens-là, quand on a fait la reprise.
Oui, il me demande, il dit « La colère, empare-toi de la colère. Rappelle-toi, tu es une bâtarde. Tu sais ce que c'était une bâtarde, Marguerite, bah vas-y. » Je dis « Bah oui. » J'ai été un peu trop aimée dans ma vie, donc j'ai du mal à...
C'est-à-dire que je pense que c'est un point central dans l'existence de Julie de Lespinasse, cette histoire d'enfants non reconnus. Quand Madame Dudéfant la recueille, puisque c'est presque de ça dont il s'agit, elle vit en effet chez son père, mais qui ne l'a jamais reconnu, qui s'est remarié à sa sœur. Donc, elle vit...
Après voilà, avoir été l'amant de la mère de la sœur.
Exactement, c'est-à-dire que Julie de Lespinasse est logé chez sa sœur, marié avec son père. Donc c'est une situation un peu... Bon. Et officiellement, si elle est reçue, c'est qu'elle est préceptrice des enfants des maîtres de maison, qui sont donc à la fois ses neveux...
Et ses frères.
Et ses demi-frères.
C'est ça, exactement.
Ouais, c'est un peu compliqué. Faites un arbre généalogique, là, chacun.
Bon. Non, mais les auditeurs de Radio Courtoisie sont très intelligents. Donc,
je n'en doute pas. Et chez, donc, dans cette famille qui est la sienne, elle est considérée, et très souvent abaissée, elle est considérée comme une domestique à part entière. Et d'ailleurs, quand elle s'en plaint à sa sœur, Diane, en parlant de son mari, Gaspard de Vichy, donc, dit, dans cette famille, ils ne savent pas très bien s'ils ont un cœur. Donc, c'est une personne qui a vécu vraiment dans sa chair l'humiliation et une injustice folle, donc, c'est-à-dire qu'elle porte le péché des autres. Et je pense que plus tard, elle va se rapprocher des esprits les plus progressistes qu'elle rencontrera dans le salon du défunt, notamment de Diderot et des encyclopédistes. Encyclopédistes que Madame du défunt ne peut pas souffrir. Dans la pièce, Céline, rappelle-nous ce que Dudéfant dit de Diderot.
Qu'elle aime les philosophes, c'est ça?
Crotté jusqu'aux
cheveux. Rustre.
Un animal, oui.
Tu te compares à un animal, enfin. Aujourd'hui, elle en parle comme on parlerait d'un punk. D'un punk à chien qui serait introduit dans un salon de la haute bourgeoisie. Et donc, dans cette opposition entre les modernes et les anciens, si, euh, pour moi, il y a une vraie relation entre
la jeunesse et, et la vieillesse. Plutôt
oui,
que
la jeunesse et la vieillesse. Mais mais il y a aussi pour moi vraiment cette dimension qui fait qu'elle a envie de renverser la table de l'ordre social ou en tout cas de,
bah, c'était l'époque
de faire
aussi.
Avancer.
Continue. Ne laisse pas troubler. Surtout pas.
Et elle a vraiment envie, oui, de renverser la table d'une certaine. C'est une proto-révolutionnaire. Alors ensuite, il faut se garder de ces comparaisons hâtives. Mais Madame du Deffand était déjà un esprit libre. Pendant la Régence, elle et son amant, le président Hénault, étaient des libertins. Ils ont pas vraiment. C'est des gens qui...
Des libertins à la Strauss-Kahn ou
Oh non.
Peut-être. Peut-être pas jusque-là, mais oui, des libertins. Enfin, il est notoriété publique que Madame du Deffand, dans sa jeunesse, passait d'une liaison à une autre.
Elle a été maîtresse du régent pendant 15 jours.
Voilà. Pendant 15 jours.
Oui.
De toute façon, le régent s'est tapé à peu près toutes les femmes. Donc...
Oui, le régent avait une consommation de maîtresse. Assez
dans la pièce, Briseville a l'air de dire que cette période de libertinage n'a pas laissé que des bons souvenirs à Madame du Deffand.
Mm-hmm. Est-ce que le libertinage laisse de bons souvenirs?
Je sais pas, mais je ne connais pas. Donc.
Vous ne connaissez pas, très bien. Mais peut-être que Rémi, parce que tu vas nous parler un peu de ton personnage.
Ah bah, Hénault.
Notre metteur en scène t'a introduit dans la.
C'est vrai.
Dans la conversation.
Alors Hénault, c'est un personnage que j'aime pour plein de choses. D'abord, quand j'ai eu à le travailler, j'étais pas toujours d'accord avec Tristan. Ah. Mais non, exactement. Mais j'ai pensé
c'est une
à
antienne,
Jean.
Ça.
J'ai pensé à Jean d'Ormesson.
Ah.
Parce que Jean d'Ormesson...
C'est qu'il faut toujours obéir à son metteur en scène. Hein. Oui, c'est le béabat. Hein.
Je sais, mais on a eu quelques conflits.
Oh, c'est beau, ça, d'entendre ça dans une radio.
Oui.
Enfin, pas de langue de bois, formidable.
C'était sympathique, non? C'était oui, sympathique.
Mais bien sûr.
Ça l'est toujours.
Je pense que ça fait... Et partie d'un processus créatif.
Alors, il faut savoir qu'ils sont à côté l'un de l'autre.
Oui. Hein, alors, on va pas se taper. Mais alors pourquoi Jean d'Ormesson? Pourquoi Jean d'Ormesson? Parce que c'était un monsieur qui m'a laissé un excellent souvenir. Il était très affable et toujours à l'écoute des autres. Et je pense que Hénault était comme ça. J'ai parcouru ses mémoires. J'ai essayé de me rendre compte de qui était Hénault. Hénault, c'est un monsieur... d'une grande qualité intellectuelle, qui ne cherche pas à se mettre en avant particulièrement. Il aimait les honneurs, il a été reçu à l'Académie française, il a été aussi membre des gens de lettres. C'était quelqu'un qui avait accepté, quand le roi Frédéric de Prusse lui avait offert l'Académie de Berlin, il l'a pris avec beaucoup de satisfaction, alors que d'Alembert, lui, l'avait rejeté. Et il n'aimait pas d'Alembert. Il ne supportait pas d'Alembert. Voilà.
Non, mais donc c'est l'ami de Madame du Deffand.
C'est un grand ami du Deffand.
Voilà, très bien. Et le rôle dans la pièce, alors comment ça...
Alors, c'est un observateur de ce qui se passe.
Voilà.
Et il finit par être attiré par la jeunesse.
Aha.
Ça veut dire que, ça veut dire qu'il va permettre à Julie de Lespinasse d'exploser. et c'est ça qui est intéressant. C'est que plus on va avancer dans la pièce et plus il va se rendre compte de son intelligence et il va lui donner la possibilité de vraiment s'exprimer.
Formidable.
Oui.
Vous savez que vous ne savez pas que cette émission est en direct.
Ah bon?
Oui. Donc, nous recevons de temps en temps des petites remarques de nos auditeurs. Ah. Et c'est pour ça que je vais vous en lire. Je découvre avec vous. Hein. Ah. Alors, madame, ça doit être, à mon avis, adressé à vous. Permettez à l'un de vos spectateurs de vous prier, de fustiger l'affreuse et récente appellation salonnière, autant inappropriée qu'utilisée par Wikipédia, reprise aussitôt à qui mieux par auteur et biographe. Courtoisement. Et là, c'est formidable, c'est que cet auditeur signe. C'est en général, ouais. C'est anonyme. Dans les cas, il signe Patrice Darras. Alors, qu'avez-vous à répondre à cela, madame?
Ben je...
Sur ce mot de salonnière.
Elle avait un salon où je...
Oui, non, mais là, il vous attaque sur le français, là. Donc, c'est une attaque directe. C'est une violence inouïe, à mon avis. Là.
J'ai pas de réponse.
Je sais pas, vous savez pas.
non, pas
vous
n'allez
pas baisser les bras devant un auditeur qui s'insurge.
Mais peut-être qu'il a même compris ce que je voulais dire, même si c'était pas le bon mot.
Bien entendu, bien sûr. Je vous chine, comme on dit.
Mais en tout Marie cas, Dudéfant tenait salon, je pense.
Voilà, tenait salon.
Salon, salonnière.
Personne ne se disait je suis salonnière.
Ah oui, oui.
Ce serait que ça. Non.
Elle
non, tu tenais salon.
Voilà.
Non, parce que sinon, ça aurait eu un petit côté péjoratif qu'évidemment, vous ne vouliez pas prononcer.
Ah bah non, bien sûr.
Voilà.
Non, mais moi, parle Céline Yvon. C'est pas Madame Dudéfant qui parle. Donc,
bien sûr. Bien sûr. Alors, voici.
Mais pour en revenir à
Revenons.
C'est quelqu'un qui n'aimait pas la lutte. C'est quelqu'un qui était toujours dans l'équilibre. Il fallait que les choses se passent bien. Il aimait observer. C'est quelqu'un d'assez sage, ce monsieur.
En tout cas, c'est la manière dont tu le joues.
Mais c'est fort bien. Je suis touché une fois de plus. Merci.
C'est pas pour l'arrêter.
Merci Jean-Luc. Merci Jean-Luc. Mais non, mais j'adore. De toute façon, j'adore ce travail et ça me fait un grand plaisir de l'interpréter.
Tu veux dire ce travail dans cette pièce ou ce travail de comédien en général?
Ce travail de comédien en général.
Bon, et principalement cette
même
pièce.
Chez toi, j'ai eu l'occasion d'interpréter du Molière avec beaucoup de plaisir.
Voilà.
Et j'y retournerai encore s'il le faut.
Mais avec Molière, oui, ça...
Non, mais même avec d'autres.
Très bien. Nous notons.
Très sincèrement, je pense que là, c'est la deuxième session de l'Antichambre. Oui. Et Rémi, je me rappelle au début où on répétait, me disait « Mais quelle salope, cette Madame Dudéfant, je l'aime pas, c'est vraiment une nana !» Et aujourd'hui, je pense que tu as évolué.
Non, je pense que Dudéfant n'est pas une femme gentille, non, je pense pas.
Enfin, tu as évolué par rapport à avant.
Je sais pas si j'ai évolué, je trouve qu'elle manque d'humanité.
Vous voulez dire évoluer dans l'idée?
Oui,
du personnage.
Oui, le personnage, je trouve qu'il manque de...
Alors, on n'est pas du tout d'accord.
Je pense,
on n'est pas du tout d'accord.
Mais ça n'empêche pas qu'on puisse jouer. Mais,
oui, on n'est pas du tout d'accord.
On n'est pas d'accord.
Je pense qu'il y a un truc que tu n'as pas compris.
Mais, alors, à la fin de la pièce, quand elle rompt avec Eno, c'est vraiment terrible.
Oui, enfin, toi, tu prends le parti de Julie.
Mais j'ai bien raison.
Voilà, mais oui, mais t'es commun, tu deviens
oui,
vulgaire.
Non, il n'y a rien à faire.
Tout est dit.
Et comme quoi, la conflictualité peut être très fertile aussi. Et ensuite.
Non, mais parce que je l'adore, mon Rémi, hein, quand
non,
même.
Mais, non, mais de toute façon, le principe, c'est de défendre toujours son personnage. Quand on joue.
Mais sincèrement, c'est pas
si
défendre,
le
moi.
Le pire des horreurs, il faut défendre un personnage. Quel qu'il soit, si vous jouez Hitler, il faut défendre Hitler. Sinon,
non, mais tout à fait. Alors, attends, sauf que là, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites.
Non, mais moi,
c'est pas Hitler, Madame Dudéfant. Madame Dudéfant,
il faut dire ce que c'est. Pas dit ça.
C'est parce qu'il y a
quand même un minimum de raison.
Non, mais je veux dire, Madame Dudéfant.
La réputation
dans
Paris est difficile, mais enfin, quand même, pas à ce point. Je ne vais pas jusqu'à défendre Hitler, même à Radio Courtoisie, quand même. Faut pas.
Non, mais la dramaturgie de la pièce, effectivement, existe si on fait de Madame Dudéfant un personnage cassant, un petit peu froid, un petit peu cynique, etc. Mais il se trouve que quand moi j'ai lu quelques livres, quelques lettres, enfin plusieurs lettres qu'elle a écrites, c'est une femme absolument intéressante et qui est, sa dureté, elle existe pour se protéger, parce que justement je pense que c'est une femme qui est excessivement sensible, qui est excessive. Mmh. Et donc elle se protège, elle met des barrières, mais je pense qu'elle a un énorme cœur. Voilà.
En tout cas, elle a une grande culture, une grande intelligence.
Voilà.
Rapports,
elle est cynique.
Très vif, très très vif. Elle pouvait faire, mais défaire une réputation d'une seule phrase. C'était vraiment ce qu'on appelait l'esprit à ce moment-là, c'est-à-dire oh mince, les mots me manquent. Ben voilà, j'en manque moi l'esprit. J'en fais l'illustration négative. Et donc, on lui prêtait une certaine cruauté, elle était très crainte. Le film ridicule...
Bon marché, l'insonnant
non, le film ridicule, j'ai oublié le nom du réalisateur, rend bien ce que pouvait être ces discussions de salon faites aussi de racontard, de...
Il faisait que
de verve. De verve.
Oui, mais enfin, où on cassait du sucre à longueur de journée.
Mais ils n'avaient rien d'autre à faire.
Est-ce qu'on a plus de choses à faire aujourd'hui? Je ne sais pas.
On continue à casser du sucre.
Oui, mais tous ces amis.
C'est un terme brillant.
Voilà.
Et c'était quelqu'un de très drôle, mais qui avait des traits très, très acides et qui pouvait être très cruel. Mais je pense que comme tous les gens très très drôles, c'était quelqu'un de profondément désespéré et de profondément pessimiste. C'est quelqu'un qui n'aimait pas la vie. Ses lettres ses lettres à Voltaire, ses lettres à d'Alembert, on y voit un désespoir très profond. Elle appelle la mort très souvent. Manque de bol, elle vivra jusqu'à 80 ans, ce qui est à cette époque-là quand même un âge très très avancé. Et c'est quelqu'un qui pendant un temps a épousé les idées nouvelles, a aimé recevoir chez elle les philosophes d'Alembert, Turgot, enfin tous ces gens qui sont des réformateurs, mais elle goûte leur intelligence, elle ne partage pas du tout leurs utopies.
C'est
quelqu'un de profondément pessimiste. Et c'est en ça qu'elle est aussi assez conservatrice, parce que elle ne pense pas du tout qu'on puisse changer ni les hommes ni les choses voilà. Et moi c'est en ça que je la trouve touchante.
Voilà.
Mais alors c'est vrai que pour sa nièce par exemple, donc cette nièce bâtarde, eh ben, ça pouvait être très cruel, parce que elle lui demande de rester à sa place, elle lui demande, elle est très froide, elle la tient à distance, et il n'est pas question
de familiarité.
Exactement.
Ce que tu dis pose une vraie question, c'est-à-dire la différence qu'il y a entre un texte, une écriture, une pièce de théâtre, et puis l'histoire. Parce que là, tu nourris les personnages de Briseville avec une connaissance historique,
alors,
ce que vous lisiez.
C'est dans l'écriture.
C'est toujours très ambigu.
Tous dont je parle, moi je connais Dudéfant et l'Espinasse par ce que m'en donne Briseville.
Mmh. Bon, oui.
J'ai un peu étoffé par curiosité de lecture personnelle, mais là, tout ce que je vous livre là... est dans le texte.
Ouais.
Et d'ailleurs, je me suis pas servi
d'une connaissance livresque.
D'une connaissance livresque au moment de la mise en scène. C'est-à-dire que Briseville ne voulait pas faire qu'une pièce historique. Il voulait parler d'être humain et de comment les jeunes poussent les vieux dans la tombe.
Universel.
Et c'est en ça que c'est une pièce passionnante, parce que c'est une pièce qui mêle l'histoire avec un grand H à nos existences, à nous d'êtres humains mortels, périssables.
Parce que si tu veux, le problème de fond, c'est que quand maintenant on réfléchit sur les rois d'Angleterre, on les voit pas dans leur réalité historique, on les voit d'après Shakespeare. C'est-à-dire que pour nous, Richard III, c'est Shakespeare.
Oui, oui.
Et vous pouvez discuter, ça sera toujours le salaud qui, boiteux qui, voilà. Et c'est ça qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire que la littérature ou le théâtre ou les œuvres l'emportent sur l'histoire.
Ah bah Shakespeare est bien plus fort que tous les pauvres historiens qui ont essayé de réhabiliter Richard III.
Oui,
il y en a un que j'aime beaucoup.
Mais plus fort encore même que la réalité historique de l'époque. C'est ça qui est assez fascinant.
Tout à fait. Et d'ailleurs, soit dit en passant, il y a un historien, bon, voilà, on fait que j'aime beaucoup, Paul Murray Kendall, qui est un historien américain qui a assez peu écrit, mais qui a écrit trois biographies formidables, une de Louis XI, une de Richard III, et l'autre du comte de Warwick, dit le faiseur des rois, personnage emblématique de la guerre des deux roses, personnage qu'on croise chez Shakespeare dans Henri VI, notamment. Et donc cet historien américain, dans son Richard III, essaye de le rétablir en nous montrant tout ce que ce Richard III a fait de positif, mais face à Shakespeare...
Il ne tient pas.
Ça ne tient pas une minute.
Et c'est pareil en France avec Dumas. On voit les personnages à partir de l'œuvre d'Alexandre Dumas, c'est assez rigolo.
Oui, mais alors moi, il me semble que Briseville est assez proche des psychologies des personnages. Alors c'est vrai que c'est condensé en une heure et demie, mais c'est proche de la vraie vie. Enfin, moi, j'ai un peu lu les lettres de Madame du Deffand, des livres sur Madame du Deffand. Je trouve que s'éloigne pas trop. Quoi. Pas romantisé, c'est pas... On est dans l'histoire.
Il y avait un vrai travail de recherche chez Briseville.
Ah oui, c'est. D'ailleurs, il y a plein de phrases que je dis dans la pièce qui ont été écrites, qui sont des lettres de Madame du Deffand. Enfin, partie des lettres de Madame du Deffand.
Bien sûr.
Donc, vous n'êtes pas comme la formule de Dumas, faire un enfant à l'histoire.
Non.
Non, non.
Mais surtout,
tu peux toujours ce qui se passe.
Comme on l'a dit tout à l'heure, Briseville. Utilise le procédé du dialogue ou de la controverse même de l'opposition entre deux figures, et il n'y a jamais de manichéisme chez Briseville. Et là, dans l'antichambre, on comprend tout à fait le cheminement des deux personnages, et Briseville nous laisse libre le spectateur de, selon notre histoire, chacun notre sensibilité, de préférer l'une ou l'autre, mais l'une ou l'autre ont leur raison.
Oui,
et c'est en ça que la pièce est passionnante.
Ouais. C'est dans ça que c'est un très bon auteur.
Ouais.
C'est évident. Oui. Parce que moi, je suis plutôt d'accord avec vous. Je trouvais que votre personnage est plutôt sympathique.
Mais oui.
Au bout du compte, parce que les victimes sont toujours sympathiques. Donc, c'est à la fin, on est pour elles, quoi, bien sûr.
Voilà.
Puisque mouvement de trahison, Oui, qu'est-ce que vous allez
dire? Non, mais par exemple, les personnes de mon âge. Les personnes de mon âge dont vous êtes, effectivement, vont peut-être plutôt prendre être de mon côté.
Vous voulez dire je suis très vieux.
Non, de mon âge, j'ai dit.
Donc on est très jeune. Donc ça veut rien dire.
Et plus souvent, les personnes qui effectivement jeunes vont dire ouais, Julie de l'Espinasse, elle a raison. Non mais voilà. Il se trouve que mon gendre, qui a vu la pièce, a trouvé que vraiment Julie de l'Espinasse se comportait pas bien avec Madame du Deffand.
Voilà.
Mais c'était ton gendre. C'était ton gendre, donc. Il s'avait flatté.
Nous ne sommes pas
dans
la dimension du pardon, ça c'est sûr, avec ces personnages-là.
Oui. Alors moi, par rapport à l'écriture de la pièce, Marguerite disait tout à l'heure, on a fait des coupures.
Oui.
Mais le truc, c'est que la pièce n'est pas écrite avec les chansons, avec les intermèdes. Et donc, franchement, faut pas que je dévoile.
Non, non.
Alors je sais pas.
Non.
Faut pas en dire trop. Oui.
Mais faut pas. Bon, bref, la pièce, elle est assez, moi je trouve, moderne.
Oui.
Dans la façon dont elle a été mise en scène.
Ce qui est vrai, en tout cas, c'est que le reproche qu'on peut faire à l'écriture de Briseville, c'est que c'est toujours une écriture un peu universitaire, un peu tiède.
Et là, franchement, c'est...
Et là, vraiment, c'est un compliment que je fais à Tristan, que j'ai écrit. En général, j'écris ce que je pense. je veux dire que là, vraiment, il y a... du conflit, de la tension dramatique.
Punchy, quoi.
On n'a pas l'impression que c'est des mots d'histoire, d'historien qui se... Et c'est ça qui fait la grande qualité du spectacle.
C'est très vivant.
Voilà. L'autre chose que j'ai beaucoup appréciée, je ne sais pas si vous avez pu reproduire ça aux Gémeaux, c'est la lumière, l'atmosphère que tu as réussi à créer. Je ne sais pas comment... Parce que cette lumière était très, très, très belle. Alors bon, le Ranelagh est un écrin, mais
le Ranelagh est un écrin absolument magnifique.
Est-ce que vous avez réussi à...
Les spectateurs aiment bien la salle des Gémeaux. Hein.
Mais je crois que bon, évidemment, on n'a pas cet écrin, mais non, je crois que les lumières sont tout aussi belles. Moi, j'y attache une importance, comme n'importe quel metteur en scène, bien sûr, on a envie que... c'est-à-dire...
En tout cas, elle est vraiment au service du spectacle. Enfin, ce que j'avais vu au Ranelagh. Hein, Je ne me lance pas sur...
Moi, je pense que c'est un élément quand même très important pour raconter une histoire. Mmh. Et il faut pas que ce soit explicatif non plus. Il faut pas que ça dise au spectateur « Ouh, là, c'est violent, on va tout mettre en rouge et, pour que vous compreniez. » Non,
surligné.
Bien sûr. Mais ça aide quand même à véhiculer des émotions, enfin je pense.
C'est exactement ce qui se passe, enfin ce qui se passait en tout cas.
Je crois qu'elles sont tout aussi belles. Alors le théâtre des Gémeaux, c'est une jolie salle.
Je peux te dire ici comme ce qu'on a fait. On a fait plusieurs émissions et notamment une émission avec Christophe Maury. On a fait une émission où on a parlé de toutes les salles de théâtre, de tous les spectacles qui se jouaient dans les salles de théâtre. On a fait ça pendant 3 mois. Hein. On a fait le tour de toutes les salles.
Ouais.
Donc on a parlé assez longuement des Gémeaux. Donc il en sortait que c'est un lieu difficile.
Oui. C'est un lieu difficile.
C'est un lieu difficile.
L'ancien théâtre, l'ancien
si on n'est pas, je sais, oui, mais si on n'est pas au-delà du 7e rang, c'est le spectateur est. J'ai encore vu l'autre jour Roméo et Juliette là-bas. Le même spectacle qui aurait été joué à la Cartoucherie, par exemple, aurait été très très bien, alors que là, ça passait pas, quoi. Ça passait pas la rampe.
Je pense. C'est-à-dire que, mais d'ailleurs, comme le Ranelagh, c'est un théâtre qui est tout en profondeur, c'est un grand couloir, mais le Ranelagh est un peu comme ça aussi, enfin.
Dans le Ranelagh, il y a une acoustique,
ils sont très nombreux sur le. Je crois qu'ils sont 21.
Bon.
Donc, c'est compliqué. Nous, notre dispositif, qui est un dispositif très léger, puisqu'on a un décor qui est projeté. Et ensuite, on a 2 fauteuils,
un tabouret,
voilà, que tu manipules avec la grâce qui t'est coutumière. Vas-y, je te passe.
Non, mais pour alors, en tout cas, d'un point de vue du plateau, je trouve que les Gémeaux est assez agréable niveau vocal et particulièrement pour le chant. Il paraît, quelqu'un m'avait dit un jour que avait-il tort, raison, mais que parfois les salles étaient plus propice à la musique et d'autres plus propices à la voix parlée. La voix parlée, je n'ai pas l'impression de devoir pousser ou qu'on m'entende mal. On peut projeter vraiment, puis elle n'est pas très grande non plus. Mais la voix chantée est conduite. On a l'impression d'être comme... que les fauteuils sont comme des vaguelettes qui propagent les ondes jusqu'au fond. Alors, c'est mon sentiment.
Je n'ai pas vu le spectacle du plateau,
revenez...
donc je ne peux pas. Donc je ne sais pas. Le Ranelagh aussi sur le plan musical, puisque au départ
c'était un
salon de musique aussi. C'était un lieu
fait pour ça. Oui. Fait pour ça.
Oui.
Extraordinaire.
Mais comme là, il est. Oui, tout à fait. Mais au Gémeaux, j'ai vraiment pas. Il y a une impression de facilité, alors que le dénuement dans lequel est la salle, en comparaison au Ranelagh où il y a toutes ces boiseries magnifiques, laisserait paraître quelque chose de froid et on est tout de suite, à la première seconde, rassuré, en tout cas pour nous trois.
Pour la chanteuse que tu es.
La chanteuse, après, si je m'entends, c'est que j'ai la voix qui me revient.
Oui, il y a un retour.
Voilà une comédienne qui est heureuse de jouer dans ce théâtre. C'est formidable.
Oui, heureuse de jouer tout court.
Le plateau est agréable. Hein,
oui, le plateau est agréable.
C'est un plateau qui me fait penser beaucoup au
Ranelagh. Il ne grince pas. Il ne grince pas.
Ah oui, au Ranelagh, il grinçait un peu.
Ah ben le Ranelagh, c'est un bateau. Comme,
oui, c'est ça.
C'est vrai que... Les éléments du théâtre viennent des marins, donc au Ranelagh, ça grince. Moi, j'y ai passé, parce que j'ai monté plusieurs spectacles là-bas il y a quelques années, dont l'un avec le père de Tristan. J'y ai passé des nuits pour faire des lumières, et à un moment donné, il fallait dormir, parce que on entendait le...
Les craquements.
Oui, on entendait la vie du théâtre qui bougeait, avec ces bruits-là, et c'était assez formidable. C'était assez formidable. Donc, maintenant, on va passer peut-être à un autre aspect du travail, c'est les rapports entre eux, puisque vous avez un tout petit peu amener le sujet, les rapports entre les metteurs en scène et les comédiens. Alors comment Tristan travaille? Alors je vous pose la question parce que j'ai compris qu'il vaut mieux pas commencer par notre ami.
Mais je prendrai la parole tout à l'heure.
D'accord.
Je dirai les choses.
Alors
Tristan.
Est-ce que vous voulez que je quitte la pièce?
Voilà. Non, tu peux rester. Mais
non, mais tu peux te boucher les oreilles, tu peux mettre cet appareil là qu'on nous met.
Tu t'en es bien sorti, Tristan.
Alors,
Tristan nous laisse travailler au plateau. Il nous laisse vraiment prendre notre aise. Il nous aide à la demande. Mais il n'est pas à nous fouetter ou alors nous façonner. Il nous laisse assez prendre nos marques et avoir notre proposition dans laquelle après il nous guide, mais il a plutôt une vue d'ensemble sur le où nous conduit la pièce, rappeler les enjeux, où nous allons, et il a le souci de savoir si nous jouons tous la même pièce. Alors parfois on parlait beaucoup parce qu'on se trouvait genre mais non, on voulait défendre nos personnages, et il nous remettait sur les rails avec beaucoup de diplomatie.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit votre partenaire?
Oui. Ah oui, 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 oui.
Enfin, je ne sais pas. Vous regardez comme, avec un air interrogateur.
Ce que j'ai apprécié, c'est... Elle a déjà été montée, cette pièce, il y a quoi, 10, 15 ans, un truc comme
92.
Ça 92, avec le texte intégral, avec un texte... Enfin, c'était très bien, des comédiens extraordinaires, notamment Suzanne Flon, bref. Et ce n'est pas ce qu'a fait Tristan. Voilà. Tristan, il a fait un truc... qui n'est pas écrit, et c'est tout l'intérêt d'avoir pris Tristan comme metteur en scène. Mmh. C'est qu'il a amené un truc qui n'est pas écrit. Et pour moi, c'est ça qui fait que cette pièce est tellement moderne.
Mmh. Moi, je l'avais vue avec Suzanne Flon,
voilà.
Qui, par parenthèse, était une... J'ai déjeuné 2-3 fois avec elle, qui était une femme absolument incroyable, de générosité, de gentillesse. C'était vraiment une femme formidable.
Comédienne exceptionnelle. Moi, je l'avais vue.
Comédienne exceptionnelle, mais aussi un être humain exceptionnel.
Ah, ça m'étonne
vraiment.
Pas.
Mais vraiment, là, ouais. J'étais sorti de ce déjeuner. Je crois que j'ai déjeuné 2 fois avec elle. Vraiment extrêmement touché par cette très, très, très belle personne.
C'est une grande dame.
Et très bonne comédienne. Mais je trouve que le spectacle de Tristan, enfin le vôtre, est meilleur que ce que j'avais vu avec Suzanne.
Oui, parce qu'il est plus moderne.
Non, c'est vrai.
Il est dynamique, il y a une dramaturgie. Enfin, il ne faut pas que je raconte ce qui se passe, mais il y a un
beaucoup.
Il y a un point d'orgue. Il y a un espèce de point d'orgue dans le spectacle auquel le spectateur ne s'attend pas et qui fait un spectacle waouh, quoi.
Mm-hmm. Non, mais... Alors, oui. Me concernant.
Oui, voilà.
Me concernant.
Alors
moi, ce que j'ai aimé chez...
chez Tristan.
Oui, ce que j'ai aimé chez Tristan.
Tristan Ledose, précisons.
Voilà.
Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté.
Ce cher Ledose et non pas Gabriel. Donc Tristan. Oui, mais c'est son écoute. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui laisse ses comédiens agir. Il les voit venir. Et il les redresse juste comme il faut, en fonction de l'autre. Et il prend pas énormément de notes, il en prend un peu. Et c'est vers la fin qu'il va nous sortir ce qu'il a ressenti. Et c'est bien parce que ça nous permet vraiment de travailler. Il n'est pas bloquant. Parce qu'il y a des metteurs en scène qui sont toujours à rechigner tout le temps. Et là, Jean-Luc, là ça devient difficile.
Ah oui, avec certains metteurs en scène.
Avec certains metteurs en scène. Vous n'êtes pas comme ça, Jean-Luc.
Ah, moi, je suis très, très directif, donc je ne... Moi, je passe 2 heures sur 2 répliques, donc quand je dis 2 heures, 4 heures.
Oui, alors bon, ben, Tristan ne va pas faire ça. Non.
C'est arrivé qu'on peut...
Que tu restes 2-3 heures sur...
Deux heures, c'est trop long, mais qu'on reprenne quelques... Enfin, ou qu'on précise, ou que je précise, je revienne souvent, mais... Mais ça va pas être 2 heures de suite, mais par contre...
Chaque répétition.
Mais à chaque répétition, voilà, merci Marguerite, que je reprécise là où je préférerais que vous alliez. Mais en tout cas, par rapport à ce que tu viens de dire, Rémi, en effet, moi je pense que pour être un directeur, d'acteur, un metteur en scène, parce que là on parle de la direction d'acteur, rusé et productif, qu'il faut essayer de, de mettre en confiance ses acteurs, ses comédiens.
Ouais.
Ce qui ne veut pas dire, se passer d'exigence ou de. Mais moi, j'ai connu quelques metteurs en scène qui pouvaient être un peu castrateurs ou et je pense que c'est contre-productif. Je pratique. Tout à l'heure, Jean-Luc, vous disiez à juste titre, c'est bientôt la fin du cinéma de la synchro. Donc, vous faisiez référence au monde du doublage. Je ne sais pas si tous nos auditeurs, que synchro, c'est un terme qu'on utilise vraiment dans le métier.
La raison de préciser.
Et donc, les gens qui nous dirigent dans le monde du doublage, j'en fais un petit peu aussi pour gagner ma vie. Il y a des gens qui, je ne citerai pas de nom, mais qui ont plaisir à humilier les acteurs et en fait je trouve ça alors déjà humainement détestable et puis stupide au sens où c'est complètement contre-productif si on est blessé, si on est humilié, bah on se tend voilà et on n'aurait jamais idée de tendre un violon plus qu'il ne faut enfin de Donc je pense qu'il faut les mettre en confiance, et une fois qu'ils sont bien en confiance, les emmener vers ce qu'on pense qu'il faut aller là où moi je respecte les auteurs dans le sens où je pense que plus que me mettre en avant moi Tristan Ledos dont on se fout un petit peu pas du tout mais je pense que Brisville ou Molière ou Shakespeare avaient sûrement plus de choses à dire que j'en ai et je pense que mon travail même si j'ajoute des petites choses des petites idées mais mon travail, c'est surtout d'essayer de révéler ce que eux ont voulu raconter. Voilà. Ce qui les rend actuels, exactement. Ce qui les rend actuels. Et ce qui. Un grand auteur, un grand poète, il passe les siècles et il nous révèle des choses sur notre humanité qui seront toujours là. Et notre travail à nous, metteur en scène ou acteur, actrice, comédien, comédienne, vous, c'est de les incarner et de les faire vivre en fait.
Ça veut dire que tu penses que Brisville va passer le temps ?
Je ne sais pas si toute l'œuvre de Brisville va passer le temps. Je pense que l'antichambre, le souper sont des pièces qui peuvent, qui peuvent vraiment passer le temps. Même alors. J'ai grande, je le confesse, je n'ai pas lu le fauteuil à bascule,
il faudrait qu'on me prête. Qu'est-ce que j'aimerais le reprendre?
Je crois qu'il n'est plus édité. J'ai essayé de le commander en librairie, je j'ai pas réussi à l'avoir. Mais, l'antichambre, j'espère, va avoir une longue vie et va continuer à être montée. Notamment pour cette raison qu'on évoquait tout à l'heure, que c'est pas qu'une pièce historique, c'est une pièce qui nous parle
des rapports humains,
d'amour. Alors, moi, j'ai lu quelque part que l'antichambre était la pièce préférée de Brisville.
C'est pas étonnant. En fait, pour résumer, la mise en scène, c'est quoi? Il y a deux règles fondamentales. La première des règles, c'est d'aimer les comédiens. C'est d'aimer les acteurs. Si on n'aime pas les acteurs, il ne faut pas faire ce métier.
Il faut aimer son metteur en scène.
Voilà, et il faut aimer aussi son metteur en scène. Mais aimer les acteurs, c'est la base des choses.
Et puis, mais est-ce que les acteurs s'aiment entre eux?
Ça, c'est un autre. Enfin, et la deuxième chose, c'est une mise en scène, c'est qu'on doit avoir le sentiment qu'il n'y en a pas eu. On ne doit pas l'avoir.
On ne doit pas avoir une mise en scène.
C'est tout. On peut passer des mois et des mois sur un texte. Là, je viens de monter l'organisation. J'ai répété 5 mois. J'espère que personne ne peut voir un quart de seconde. Oui, donc, oui. On a travaillé ne serait-ce que 3 minutes. Ça doit donner le sentiment d'être naturel, d'être évident.
Une évidence.
Ouais, et qu'il n'y a même pas de discussion possible à avoir parce que, voilà, on ne se pose pas la question. C'est pour ça que tu as raison d'une certaine façon quand tu dis que je ne suis rien. Metteur en scène, on est un passage. On est, voilà. Le théâtre, c'est un lien entre l'auteur et le metteur en scène, ensuite entre le metteur en scène et les comédiens, et ensuite entre les comédiens et les spectateurs.
Tout
à et
fait.
À chaque fois, c'est un deuil. C'est ça le théâtre.
Tout à fait, oui, oui, c'est vrai. Ouais. C'est une, on est toujours dépossédé.
On est toujours dépossédé, c'est toujours une souffrance.
C'est pour le. C'est
je ne voudrais pas créer de souffrance à Radio Courtoisie, parce que normalement, nous devons à chaque fois dans cette émission nous arrêter un petit moment pour une petite page de publicité qui n'est pas exactement de la publicité, mais qui est quand même. Enfin, c'est de l'auto-publicité, mais c'est nécessaire. Voilà, je laisse la parole.
Nous écoutons.
Voilà, nous écoutons religieusement.
Oh oui.
Nous sommes sur Radio Courtoisie, donc religieusement.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, pendant cette page de publicité que vous avez vue très longue, mais très efficace, voilà, Rémi Jouvin me glissait dans l'oreille pour me faire tout d'un coup me réjouir mon vieux cœur en me disant il était très chrétien à la fin de sa vie.
Eno a fini vraiment dans la grande chrétienté.
Je pensais que tu parlais de Briseville.
Ah non.
Tu parlais d'Eno.
Ah non.
Ah oui, de Briseville. Là où j'ai bien.
Alors Briseville peut-être, mais ça je ne peux pas en parler. Mais par contre Eno, j'en suis certain.
Ah d'accord.
Et c'était
donc
vraiment...
c'était. Vous avez compris, chers auditeurs, que c'est une véritable incarnation avec Rémi Jouvin. Hein.
Mais c'est un homme donc, généreux. C'est un homme généreux. Moi, ce qui m'a surpris chez Eno, surtout à cette époque, c'est qu'il a laissé une partie de sa fortune à son majordome. Alors, sans homosexualité. Bon. Alors ça, c'est quand même assez incroyable. Il n'avait pas d'enfant. Non, mais ça n'a rien à voir.
C'est, bah, que c'est...
Non,
c'est rien.
Mais non.
Il y a un soupçon alors.
Il avait de la famille. Il avait une sœur. Il avait une sœur. Non, c'était un.
Vous savez qu'aujourd'hui, l'homosexualité n'est pas, c'est pas condamnable.
Ah, hein. Moi, personnellement, je n'ai rien contre l'homosexualité. Ah, chacun fait ce qu'il veut avec son sexe, avec son corps. Non, ça me regarde pas.
On apprend encore quelque chose à Radio Courtoisie, c'est formidable.
Oui. Non, tout ça pour dire que ce personnage me touche d'autant plus par rapport à sa chrétienté, par rapport à ses croyances. Voilà.
Bon, écoute, moi, dès qu'il y a un chrétien de plus, je ne peux que me réjouir. Hein, cette religion qui est en train de disparaître, malheureusement, ce qui est affreux. Enfin, voilà, donc, je sais qu'Eno était chrétien. Alors, voilà, mon petit cœur de catholique
Madame bondit. Madame Dudéfant ne l'était pas du tout. Pas du tout.
À l'époque, on ne le disait pas. Mais
elle le disait.
Elle le disait. Ouais. Elle le disait vraiment.
Ouais, elle le disait. Elle croyait en rien.
Elle croyait en rien.
Ouais. Julie l'était.
Oui, Julie, alors je ne sais pas ce qu'il en est, parce qu'on n'a pas... J'ai pas...
Creuser
dans les
le...
dernières... Non, dans les lettres que j'ai pu avoir, il y en a certaines en ligne qu'elle adresse à Condorcet ou qu'elle reçoit. Il n'est plus les questions des affaires du jour. Elle devait aller au couvent.
Elle est restée un petit moment au couvent. Hein.
Et je pense qu'elle était... Bon, elle me semble chrétienne dans sa conduite. Elle aime l'amour et la charité. Je trouve que c'est... Et après, je ne sais pas si vers la fin de sa vie, elle n'a pas semblé s'en remettre, je n'ai pas lu qu'elle s'en était beaucoup remise à Dieu, à ses amis, oui. Mais je pense qu'au début, elle a dû croire. Elle aimait la vie. Alors, je pense que quand on aime la vie...
On est catholique.
On est catholique ou en tout cas, on reconnaît l'amour, le beau, l'amour. Et ça, c'est un principe quand même... chrétien. Et elle avait quelque chose de chrétien qui était d'aimer son prochain comme soi-même. Dans la pièce, on a coupé... Il y a quelques répliques qui, chez Briseville, le font entendre au début. Elle le dit, c'est une réplique qui n'apparaît plus, mais « Est-ce un péché, madame, que de s'intéresser aux auteurs de son temps ?» Je pense que c'est peut-être le seul endroit où elle... Mais elle a quelque chose... Moi, j'avais travaillé avec cette idée de quelqu'un de... qui cherchait le bien et qui... Et je pense qu'il y a ça, elle pense que le bien est un principe directeur qui anime toutes les âmes. Elle se trouve un peu déçue.
Mais il y a ça chez Eno, hein. Il y a ça chez Eno.
Et alors, il me semble, je ne suis pas du tout historienne, très, 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 très loin de là, mais de ce que je lis sur les encyclopédistes, et, il me semble qu'il y a eu vers le troisième... tiers du XVIIIe siècle, avant la Révolution, il y a eu quand même pas des casuistes, mais il y avait un penchant très moralisateur dans la société. Et tous ces gens qu'on a laissés dans les années 50, Voltaire, être des libres penseurs et attaquer la religion, ont été sévèrement punis. Diderot a fait de la prison. Il y avait une censure partagée, on faisait très très attention.
Et Hénault, qui était très ami avec Voltaire, s'en est séparé à la fin de sa vie. Il ne s'entendait plus avec Voltaire à la fin de sa vie.
Oui, je crois que Voltaire a refusé les derniers sacrements, par principe de cohérence avec ses propres convictions.
Et vas-y. Alors, non, mais parce que je repense à Hénault, parce que peut-être que je pense que les auditeurs le savent, mais on disait toujours le président Hénault. C'était un homme très, très important, très influent. Il était donc président du Parlement de Paris. Et c'était un homme excessivement riche. Riche d'abord par son père, puisque son père était un fermier général, donc qui avait déjà fait une fortune personnelle, et lui-même avait augmenté sa fortune. Et c'était un homme qui paraissait très généreux. Il avait épousé une femme qui est morte assez vite, assez tôt, qui était la petite-fille de Mansart, l'architecte Mansart. Et ils avaient un hôtel particulier, entendez-moi bien, Place Vendôme.
Oh, très bien.
Remarquable. Très et bien. Après, il est allé se porter rue Saint-Honoré, face aux Jacobins. Enfin, c'était un homme vraiment très, très, très à l'aise et qui recevait beaucoup. Ah, un mondain.
Il nous reste quand même une demi-heure, donc je voudrais en profiter quand même pour que vous nous parliez un peu de votre carrière à chacun. Marguerite Mousset, alors quelle est votre carrière, comment vous avez commencé à faire du théâtre, qu'est-ce qui vous a animé dans
Moi, je n'aimais pas du tout le théâtre.
Ah, mais parce que vous n'avez pas vu mes spectacles.
Et sans doute. Non, je pensais que je voulais être scénariste quand j'étais plus jeune. Et je me disais qu'avec le cinéma, je ne voyais pas l'intérêt de ces gens qui faisaient du théâtre, qui portaient des chapeaux. Et un jour, j'ai eu...
Vos parents faisaient quoi ?
Pas du métier. C'est des gens lettrés, savants, bien plus savants que moi. Et j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui m'avait dit, plutôt Stéphane Barsac, qui était le petit-fils d'André Barsac, qui a tenu le théâtre de l'Atelier.
Oui, oui.
et donc il m'a présenté à certains académiciens. Donc j'ai rencontré René d'Obaldia.
Dans sa grande vieillesse, parce qu'il est mort à 102 ans.
Oui, exactement.
Ans, ouais.
Donc j'ai beaucoup aimé. C'est un théâtre qui, pour des gens joyeux et enthousiastes que j'étais, plaît beaucoup. Donc j'ai étudié son théâtre à la Sorbonne. Mais la pièce qui m'a déterminée à en faire, c'était, j'étais allée voir à l'Atalante. Une pièce de Friedrich Dürrenmatt, Pleistrinberg.
J'ai vu aussi, oui.
Et alors ça, pour rester mon ami, il fallait être allé voir cette pièce.
Bah écoutez, je peux être votre ami, parce que je l'ai vu, et que j'avais trouvé ça très très bien aussi.
Nous serons amis. et c'est ça où là, j'ai compris que le théâtre avait... Quand c'est formidable, ça vous... Ça pénètre la chair, c'est d'une telle puissance.
À qui le dites-vous ?
Exactement, mais oui. Et alors là, je me suis dit, non, il faut faire quelque chose. Et ça m'a décidé à l'étudier. J'ai commencé par mettre en scène Obaldia. Et puis, quand j'ai eu les acteurs qui...
Quelle pièce d'Obaldia vous avez mis en scène?
Je voulais mettre en scène le satire de la Villette.
Oui, ce peut être pas une très bonne pièce, mais enfin...
Je suis pas d'accord avec vous, elle a été censurée.
Donc, censurée.
Elle a été censurée. Elle avait été mise en scène à l'Atelier. Elle a été censurée tout de suite parce qu'il y a une petite fille. Il s'agit d'un satire et de petites filles qui sont enlevées et violées.
C'était censuré par qui ?
Elle a été retirée. Alors là, je me rappelle plus. Pourtant, j'ai écrit un mémoire
censure,
dessus.
Censure, parce que
non, elle a été. On a dû la. Elle a été retirée de la du plateau.
Mais ce sont les héritiers ou c'est...
Ah non, c'est la presse, tout le monde a crié au scandale.
La presse ne censure pas.
La presse ne censure pas, c'est le gouvernement aurait censuré. Non mais je ne sais pas, c'est pour ça.
Oui, oui,
ça me paraît ça a été, absolument étrange.
Elle n'a pas...
Parce que les gouvernements ne sont souvent pas très intelligents, mais ils évitent en général ce genre de bévues.
C'était dans les années 60, elle a été censurée parce qu'il s'agissait de petites filles qui étaient violées. Et tout ça tournait élégamment et donc on a trouvé tous les hommes, tous les messieurs se sont trouvés ont eu l'impression d'avoir des cornes qui leur poussaient sur la tête et on a crié au scandale et la pièce a peut-être parce que décision de je ne sais plus si la direction donc André Barsac a décidé pour
oui je pense que ça doit être ça
d'arrêter mais c'était
oui ça doit être ça oui ça doit être ça oui.
Mais elle a arrêté et n'a plus jamais été mise en scène sauf une fois là je crois à la télé mais moi j'avais mis en scène à Les Saillons le général inconnu qui n'a que trois personnages
je connais pas cette pièce
et c'était en dirigeant des acteurs j'ai compris que parfois, on me disait que comme je ne savais pas ce que c'était qu'être sur un plateau, j'avais des demandes qui n'étaient pas légitimes. Donc, je suis allée au cours Florent pour rectifier le tir. Oui, malheureusement, j'ai aimé ça et donc j'ai poursuivi.
Oui, malheureusement, un petit peu. Non, j'ai cru que vous alliez dire j'étais malheureusement au cours Florent. Ce qui aurait été aussi une possibilité. Et donc, ensuite, vous avez des projets après
après, alors...
Bon, parle du chant, parce que Marguerite...
Oui, j'ai été...
Mais ça, on avait un peu compris, mais
voilà,
quand même, préciser.
J'aime le chant lyrique, je suis mélomane et j'ai travaillé d'arrache-pied pour pouvoir chanter. Et ça m'a conduite à mettre en scène des opéras de poche, ce que j'ai fait quelques années, avec des camarades... au théâtre de l'ENS, après dans un festival de Mélodie sur Arzon, où il y avait de grands professionnels qui venaient clore un festival d'une semaine sur la musique classique, avec des enfants qui chantaient les chœurs, et un certain Thomas Taquet réarrangeait les chœurs pour les voix d'enfants. C'était des souvenirs magiques où j'ai pu entrer voilà, diriger alors des gens qui n'étaient pas acteurs mais à qui je donnais le goût du théâtre et c'était formidable et en tant que comédienne j'ai eu la chance de rencontrer sur un plateau Tristan Ledoz qui a trouvé que je pouvais incarner Julie de l'Espinasse donc j'ai pu faire la rencontre de Rémi Jouvin et Céline Yvon pour me lancer dans cette aventure. Mais j'ai un petit peu plus d'expérience en tant que chanteuse et metteur en scène.
J'aimerais bien que tous les comédiennes aient votre expérience de comédienne.
Oui, mais je suis ravie.
Et donc, là, sur le plan du théâtre, vous avez des projets après ou...
Là, je vais chanter dans des performances
très bien.
En mai et juin. Et au théâtre, on travaille à chercher des pièces plutôt... qui verseront plus vers le comique et pour réjouir et pour essayer de retrouver le rire dans ces temps sombres.
Et l'antichambre est drôle. Hein.
Oui, oui, bien sûr. Comme toutes les grandes pièces, voilà. Elles sont à la fois drôles et graves. Alors vous, votre Céline Yvon, votre parcours.
Mes parents nous emmenaient à Noël. J'habite la province quand j'étais jeune. Nous emmenaient à Noël, à l'Opéra et à la Comédie Française. Je me rappelle très bien la Comédie Française. J'ai peut-être 10 ans. Je vois des gens sur le plateau. Je ne comprends rien. C'est une tragédie. Je ne sais plus de qui. Et je suis absolument... Je ne comprends rien. Et je me dis, mais c'est ça que je veux faire. Personne ne comprend rien. Tout le monde les écoute. Et c'est trop beau. Voilà. Et à partir de là, après, j'ai fait le conservatoire. Après,
j'ai fait le conservatoire de Paris.
Du Mans. Après, j'ai commencé à travailler et concomitamment, j'ai rencontré mon mari. Et j'ai commencé à travailler dans une compagnie. Et j'ai fait une tournée et j'ai vu que la vie des comédiens, c'était compliqué.
Oh.
Moi, j'étais
rappelons qu'il y a 90% de chômeurs.
Voilà, c'est très compliqué. Je suis très, très amoureuse. Et donc, je me marie et je me dis, non, mais moi, je tombe enceinte. Donc, je me dis, bon, allez, retour province. Je fais mes enfants et le théâtre. Je vais me mettre au saxophone et aux beaux-arts, à la sculpture. Bref, il se trouve que je rencontre un élève du même prof de théâtre que moi qui veut créer une compagnie. Donc, on monte une compagnie au Mans. Et pendant 25 ans, j'ai joué, je sais pas moi, je me rappelle même pas les pièces que j'ai jouées. On a créé le truc de toutes pièces dans une cave.
Vous avez transformé en théâtre ?
Qu'on a transformé en théâtre. Au début, c'était des chaises en plastique qu'on mettait. Hein. On a investi, il y a eu des projecteurs, des sièges, tout ça. Et à la fin, on fusait du monde. Bref, pendant 25 ans, on a monté, mais je sais pas combien de pièces on a montré. Le caveau 105. Et je sais pas combien de pièces on a monté.
Qui existe encore ?
Non, ça n'existe plus. Et ça n'existe plus, malheureusement, parce que notre cher metteur en scène, qui était un fou du théâtre, Olivier Coinon, est malheureusement décédé.
Oui,
et
beaucoup.
Donc, mais il se trouve que Rémi Jouvin...
Elle le montre du doigt. Hein.
Voilà, Rémi Jouvin, nous avons joué ensemble, et c'est là que j'ai rencontré Rémi. Nous avons joué ensemble Le Miroir d'Arthur Miller. Et, enfin, c'est une pièce, plus d'un titre, qui avait beaucoup de sens pour moi. Enfin, bref, j'ai beaucoup aimé le travail de Rémi. On a gardé contact, il y a eu d'autres... Je ne peux pas raconter toute la vie, parce que dans un roman, vous ne le croiriez pas. Non. Donc, voilà. Bref.
Il nous reste 20 minutes. En 20 minutes, on peut dire des choses.
Non, mais c'est incroyable. Bref, notre metteur en scène, un peu génial, décède. Donc, bon, il se trouve qu'il y avait eu un autre projet.
Rappelez son nom, parce que...
Olivier Coinon. Voilà. Paix à son âme. Il décède. Mais il se trouve qu'on avait eu un projet qui avait été soutenu par la région,
Par Boulard.
Par Boulard.
Jean-Claude Boulard.
Jean-Claude Boulard, sénateur maire. Un projet sur Aliénor d'Aquitaine, un gros projet, on avait des belles subventions, tout ça, mais notre metteur en scène décède pendant qu'on est en train de refaire l'écriture avec vous là. Bref, il y a eu des, comment dire Rémi, aide-moi, des dissensions, je veux dire, entre les gens de la compagnie, puisqu'il n'y avait plus le metteur en scène.
Oh non, ça arrive ça,
voilà.
Non,
bref,
c'est pas possible.
Rémi et moi, je dis, attends, on monte une structure, il ne faut pas que y ait les subventions aillent à droite et à gauche, il faut qu'on le monte ce projet. Donc, il y a une structure, l'Alpha Théâtre, qui a été créée. Le temps passe, patin coup fin. Ça tombe en... Il n'y a plus de caveau 105, il n'y a plus rien. Donc, et puis, moi, j'ai toujours mon idée...
Il y avait
idée.
Combien de comédiens ?
Oh, on n'était pas nombreux. Il y avait 4-5.
Parce que sur Aliénor d'Aquitaine, je vous disais que c'était une fresque historique, donc avec 60 comédiens.
Ça avait été très concentré, on était 5. Enfin, voilà, on l'avait... La création, c'était à l'abbaye de Fontevraud.
Bref... Qui est un...
Ah ben, magnifique endroit.
Ben, je sais, j'ai monté le spectacle.
Au fond avec Henri II.
Je connais ce lieu très très bien.
Bref, et Rémi, ben on se voit plus, ça s'arrête, machin. Et Rémi me dit qu'il joue dans un rôle.
Pour un oui ou pour un non.
Manufacture des abbesses. Et moi, j'ai cette pièce de l'antichambre, je la trouve géniale. Donc, je vais voir Rémi. Jouer à la manufacture des abbesses.
Très bien. Oui, non mais attends, la réalité c'est que Gabriel Ledoz est venu jouer au Mans.
Voilà, il est venu parce que je m'occupe d'un festival, enfin dans le festival de Vivoin, je suis au bureau du festival de Vivoin, festival de musique baroque, et moi je dis j'adore la musique baroque, mais ce serait bien qu'il y ait du théâtre. Mmh. Donc je cherchais des pièces qui avaient un rapport avec le 17e, le 18e, et donc on fait venir le neveu de Rameau. Les comédiens du Neveu de Rameau logent chez moi et on discute au petit-déj avec Gabriel.
Voilà,
et il me dit « Ah, je connais bien Rémi Jouvin. » Quoi, Rémi Jouvin ? Je dis « Mais... » Et j'appelle Rémi, je dis « Mais appelle Gabriel, ça lui ferait trop plaisir de te voir. » Il appelle Gabriel, il joue, il monte, enfin bref. Enfin, je la fais courte, hein, Rémi. Donc moi, heureusement.
Donc, non, rassurez-vous, les auditeurs ne se sont pas encore endormis, donc ça va à peu près.
Que je vais voir Rémi à la manufacture des abbesses dans la pièce de Pour un oui, pour un non.
Voilà, dans lequel joue Gabriel Ledoz voilà,
et Bernard.
Et Bollet,
mise en scène par Tristan Ledoz.
Et qui est repris en ce moment au Poche Montparnasse.
Et je l'ai vu au Poche Montparnasse, c'est. Enfin, moi, j'ai préféré la manufacture, j'ai trouvé ça top. Bref, donc, après la pièce avec Rémi, on va boire un petit godet dans le troquet d'en face, et il me présente son metteur en scène.
Voilà.
Toute contente, je ne sais pas, peut-être que j'en avais pris deux verres de trop, je ne sais pas, je dis à Tristan, que je ne connais pas, j'ai une pièce pour vous. Est-ce que ça vous intéresse d'être le metteur en scène de l'antichambre ? Tristan, charmant, urbain, me répond oui, pourquoi pas. Mais le soir, je me couche, je me dis bon, n'importe quoi, bah, voilà. Mais je crois quand même que je te passe le livre ou un truc comme ça. Et ça l'a intéressé. Et de là est née cette histoire formidable.
Parfait. Alors, parce qu'il nous reste quelques peu de temps, donc...
Me concernant.
Pas trop long.
Dois-je être très rapide.
Efficace.
Tout le monde connaît. Tout le monde connaît Raymond Devos. J'ai 15 ans. J'adore Raymond Devos. Je me promène dans un petit village de Lozère. Je passe devant une vieille église. Et je ne sais pas pourquoi, je suis entré. Et il y avait Dieu. Dieu qui était là, Dieu qui priait. Il était là qui disait, ô homme, si tu existes, un signe de toi. Mais je lui ai dit, mais mon Dieu, je suis là. Il a dit, miracle, une humaine apparition. Je lui ai dit, mais mon Dieu, comment pouvez-vous douter de l'existence de l'homme alors que c'est vous qui l'avez créé? Il m'a dit, il y a si longtemps que je n'en ai pas vu un dans mon église, que je croyais une vue de l'esprit. Je lui ai dit, mon Dieu, vous voilà rassuré? Il a dit, oui, je vais pouvoir aller leur dire, là-haut, l'homme existe, je l'ai rencontré.
Ah ah, c'est du Devos, pur jus.
Et ben voilà, du pur jus. Voilà, donc et donc, ce cher Raymond que j'ai croisé, que j'ai rencontré lors d'un spectacle, parce que je connaissais André Weber, donc il m'avait fait rencontrer, j'avais été frappé par la vision de cet homme, qui était une vision qui m'a fait penser un peu au regard de Baudelaire. C'est-à-dire que c'est pas un regard qui va vers l'extérieur, c'est un regard qui est complètement tourné sur lui-même. C'était très impressionnant. Et à l'époque, je cherchais à rentrer dans les cours de théâtre, à faire les concours. J'ai eu la chance d'être avec Jean-Laurent Cochet, que j'adore, qui est un monsieur que j'ai eu plaisir à embrasser il y a quelques années.
Qu'importe. Qui était un des grands professeurs.
Oui, mais qu'importe, c'était un homme remarquable avec une grande histoire du théâtre. J'en garde un excellent souvenir.
C'était un type formé. Et un vrai chrétien.
Et j'ai eu la chance.
Je connaissais bien, un vrai chrétien.
En plus. Et j'ai eu la chance derrière. Il m'aimait beaucoup, Jean-Laurent.
Pas trop, j'espère.
Non, mais...
préciser, attention.
Il m'avait fait rencontrer Pierrette Bruno, enfin, beaucoup de gens comme ça.
Il cite des femmes comme ça.
Oui, mais c'est vrai. Et alors...
Avec l'accusation sur son personnage, moi, je commence à m'inquiéter.
Mon cher Jean-Luc, je suis allé travailler avec notre ami Francis Huster et Pierre Roman, et dont je garde un excellent souvenir de Pierre, qui malheureusement n'est plus de ce monde, qui m'avait gentiment proposé d'aller travailler avec Chéreau, mais à l'époque j'avais déjà 26 ballets, donc...
C'est vieux. Hein.
Ça commençait à faire.
Et après,
Cochet,
Chéreau, ça faisait beaucoup. Là.
C'est drôle.
Bon, j'ai pas pu m'en empêcher, pardon, mon Dieu.
Je suis marié. Hein. Je n'ai pas d'enfant, mais je suis marié à une artiste peintre remarquable. J'ai continué à vouloir travailler, notamment par Yves Pignot, que tu connais aussi. Oui, et donc, malheureusement, ces métiers sont tellement compliqués que Besnard m'avait dit, mais Rémi, moi, je pourrais jamais te faire travailler dans le cinéma. Pourquoi? Ça, je ne sais pas. Je peux te faire rencontrer mon frère qui fait du théâtre. Bon, à l'époque, j'étais un peu perdu. J'ai écrit des courts-métrages. Il y en a un qui se réalise. De fil en aiguille, je vais travailler beaucoup dans des ateliers de construction de décors. Et je continue ma démarche de comédien. Mais pour bouffer, je trouve le moyen de le faire par le biais du cinéma. J'ai fait énormément de régie, je connais très bien la production. Et un jour, comme ça, Julie Ravix me dit « Ah, mais je connais quelqu'un avec lequel tu pourrais vraiment travailler. »
La femme d'Ispigno.
C'est super parce qu'il y a un théâtre qui se monte, c'est le Théâtre du Nord-Ouest. On est en 96 ou 97.
Bon. Voilà. On va peut-être passer à Tristan avant qu'on en arrive.
Mais voilà, donc la comédie, avant tout, la comédie.
Oui, Tristan, alors raconte ton parcours. Moi, je le connais, mais nos auditeurs ne le connaissent pas. Qu'il faut bien dire, parce que vous avez cité Gabriel Ledos, qui est un excellent comédien et qui est le papa de Tristan. Voilà.
Alors, donc voilà, mes deux parents étaient de la partie.
Ils le sont toujours. Ils ne sont pas morts, Dieu merci.
Mais moi, je voulais faire des études d'histoire. Ce que j'ai commencé à faire,
C'est peut-être pour ça aussi que Briseville me plaît tant, parce qu'il y a cette dimension historique, même si c'est pas la seule. Et puis quand je commence les études, quand je vais à la faculté, je me rends compte que j'ai pas envie de devenir professeur. J'avais envie, je rêvais de faire de la recherche, mais je vois que ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps. Et puis l'université me semble tellement en dehors du monde que ça me fait un peu peur et que ça m'ennuie un peu. Et dans le même temps, mes deux parents m'avaient transmis l'amour de la poésie, notamment. Donc j'apprenais des poèmes, notamment d'Apollinaire. Je suis un fou d'Apollinaire.
On peut te comprendre.
Et puis, j'allais voir vos mises en scène, entre autres, parce que donc
mon père. Oui.
Voilà. J'hésitais à sauter le pas. Pour moi, il y avait quelque chose de presque qui relevait un peu de l'ordre de l'inceste. C'était comme de regarder dans la chambre de mes parents, enfin de rentrer dans leur intimité. Mais bon, au bout d'un moment, quand même, le désir se faisant de plus en plus aigu, je suis allé comme auditeur libre dans un premier cours de théâtre. Cours de théâtre mené par quelqu'un que les auditeurs de Radio Courtoisie ont bien connu, puisque c'était le cours de Jean Darnel.
Qui m'a précédé ici dans cette émission.
Voilà, donc j'ai été un des derniers élèves de Jean, qui était déjà qui avait déjà un âge avancé quand je suis rentré dans son cours à 19-20 ans.
Ton père avait été aussi un élève de Darnel. J'ai connu Darnel par ton père. Donc,
voilà. Ma marraine, Anne Plumet aussi, avec qui vous avez travaillé.
Qui joue en ce moment aussi.
Et qui aussi.
Au Poche Montparnasse, rappelons-le.
Au Poche Montparnasse, dans notre travail familial sur Nathalie Sarraute. Bref, donc je rentre dans ce cours-là, et puis ensuite j'intègre le conservatoire du 20e arrondissement, où je suis pas resté très longtemps, et puis ensuite je suis rentré à l'école Claude Mathieu.
Oui, qui était un des grands.
Une école que j'ai beaucoup aimée. Oui,
qui est malheureusement à l'hôpital, d'après ce que je crois en ce moment.
Oui, j'espère.
Qui était un des grands professeurs d'art dramatique.
Et puis surtout, grand professeur et un grand fédérateur. Il a réuni dans cette école une équipe. Il y a une vingtaine de professeurs. Bon, alors il y a du turnover, mais et c'est une école qui a le mérite de présenter à ses élèves vraiment les différentes facettes de ce métier, parce qu'elles sont nombreuses et les différentes façons d'appréhender notre pratique.
Il y en a qu'une de bonne, mais il y en a beaucoup.
Voilà. Et puis derrière, j'ai eu la chance. De faire mes premières expériences au Théâtre du Nord-Ouest, dans votre maison.
Décidément.
Voilà. Sous la direction d'Edith Garot, que je salue. J'ai rencontré un monsieur qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, qui s'appelait Denis Lorca, qui nous a quittés il y a deux ou trois ans.
Un grand spécialiste de Shakespeare, il avait monté par exemple toute une pièce à partir des pièces historiques de Shakespeare qui durait une dizaine d'heures.
Henri V, Henri VI.
Ouais, ouais, c'était absolument, absolument extraordinaire. Absolument extraordinaire.
Qui était donc
Il nous manque, il avait vraiment le sens shakespearien, c'était un type formidable, Denis Lorca.
C'était vraiment un grand un être humain délicieux aussi, très très généreux, qui m'a pris un peu sous son aile, et qui, même si je ne l'ai pas connu très longtemps, mais qui m'a appris beaucoup de choses. Et puis ensuite, j'ai commencé à travailler, j'ai participé à une compagnie de théâtre qui s'appelait le Théâtre Arnold, qu'une amie Clara Schwarzenberg et moi avions monté. On travaillait beaucoup sur des écritures contemporaines d'Europe de l'Est, ce qui nous a amené, et du Caucase, ce qui nous a amené à jouer en France, en Allemagne, et puis jusqu'à Tbilissi, en Géorgie, puisqu'on a monté plusieurs pièces de géorgiennes.
En français.
Ensuite, j'ai intégré la Maison d'Europe et d'Orient, qui est une structure qui était à la fois le siège d'une maison d'édition qui existe toujours, qui s'appelle les éditions Espace d'un Instant,
qui publie du théâtre contemporain, notamment d'Europe de l'Est, mais pas que, et aussi le siège d'une compagnie de théâtre qui s'appelle le Théâtre National de Cildavie, un clin d'œil à Tintin, et à l'Europe de l'Est. Et puis, voilà, d'aventure en aventure. À côté, j'ai fait un peu de doublage. J'ai fait mes premières armes à la mise en scène, donc avec ce point oui ou point non.
J'étais à la Mad Victor des Abbesses.
Hein, voilà.
Un petit théâtre à Montmartre.
Et repris,
voilà, au théâtre de poche.
Au théâtre de poche.
On peut y aller.
Il y a eu plein d'autres projets.
Et qui a amené donc à cette.
Voilà, c'est un métier qui est fait de rencontres et.
C'est évident.
Une aventure prépare la prochaine.
T'as toujours le projet de Strindberg, le père?
Oui, voilà, oui. Je crois que tu es dans la distribution, Rémi.
Ouais.
Ça vient d'être monté là au Théâtre du Nord-Est. La première était il y a 5 jours. Oui.
Et je peux te demander quelle est. Alors, je ne viendrai pas la voir.
C'est Nicole Gros qui l'a mis en scène.
Ah, bah que je salue, que je connais bien. Ouais, ouais.
Moi, je l'ai mis en scène aussi.
Ouais.
C'était quelque chose. Mais enfin, bon. Avant, on doit bientôt terminer. Voilà, il reste une minute ou deux. Juste, une petite question. Est-ce que vous avez vu un spectacle à Paris dont on vous aurait envie de dire du bien? Parce que. Est-ce que vous allez au théâtre? Parce que les comédiens souvent ne vont pas
au
théâtre.
Si, moi je vais au théâtre.
Alors,
j'ai vu Pour un oui, pour un non, avant-hier.
Bien sûr,
très bien.
On vient d'en parler, oui, ça c'est très bien. Oui,
Merci.
Je peux dire des trucs que j'ai pas aimés?
Mais bien sûr.
Le Misanthrope que j'ai vu à la Comédie Française.
Ah, oui, oui.
Je n'ai rien compris.
Oui, oui. Non, mais vous n'êtes pas la seule.
C'était épouvantable.
Moi, je l'ai mis, c'est une pièce que j'ai tellement mis en scène que je veux pas à chaque fois, je suis tellement déçu que.
Ah, mais c'était. Non, mais là, moi, c'est merveilleux, cette pièce. Non, l'année dernière, mais c'était l'année dernière, et ce n'est plus joué. J'ai vu Des fleurs pour Agernon.
Oui.
C'est un monologue. Merveilleux. Merveilleux.
Oui, je sais, le problème, c'est qu'il y en a trop.
C'est que quoi?
Il y en a 150. Il y a 150 One Man Show à Paris, des solos. Je sais.
Ça déborde.
Un autre spectacle, j'avais dit, qui était très, 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 très bien, mais je m'en souviens plus. Ah, si la Comédie Française, au Studio Théâtre, j'avais vu Machin Alceste, là. En fait, c'est un cours de théâtre sur le texte du Misanthrope. Mmh. C'est avec 3 comédiens. C'était génial. Mmh. Je me rappelle plus du titre.
Très brillant.
Voilà.
Et vous, là, vous allez voir un petit peu au théâtre?
J'y vais demain.
Qu'est-ce que vous allez voir?
Je vais voir nos camarades au Gémeaux, Roméo et Juliette. La dernière grande pièce qui m'a vraiment retournée, c'était le soulier de satin mis en scène par Éric
Couche.
Oui, d'accord.
Alors ça, c'était...
Et vous êtes d'accord?
Claudel,
oui, c'est bien.
Ah oui, d'accord.
J'étais tellement heureux.
Bah oui, il monte Claudel sans le Christ, donc tout va bien, quoi. Bon, je plaisante. Et toi?
Moi, j'ai pas le temps.
Si, tu peux dire un non, et puis on arrête. Bon, écoutez, voilà, l'émission se termine, voilà. Et puis le mois prochain, on reparlera de théâtre. Il faut aller au théâtre, ça c'est vraiment essentiel. Allez au théâtre. Voilà.
C'était un plaisir.
Bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
Merci.
À Radio Courtoisie.
Au revoir.
Vous venez d'entendre le Libre Journal du Théâtre, dirigé par Jean-Luc Génère, diffusé en direct sur Radio Courtoisie vendredi 20 mars 2026, de midi à 13h30 et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir à un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.